pas mal, quoi. C'était super tes émissions sur Aulnay, mais là, c'est dans la boutique, quoi.
Un petit jeu sympa pour l'été, pour engorger la NSA et les faire chier un petit peu pour leur apprendre à nous espionner et à écouter nos conversations. Parsemez vos conversations téléphoniques, vos SMS, vos mails, des mots qui déclenchent le système échelon. Par exemple, « Ah, dis donc, l'autre jour, je marchais dans la rue, devant une maison blanche, j'ai vu une nana, une vraie bombe. Ah, elle était habillée, fallait voir, un vrai attentat à la pudeur. Je peux te dire, on a passé une nuit explosive. Là, hop, les grandes oreilles se déclencheront. Le temps qu'on trouve dans quelle langue vous parlez, qu'on trouve un interprète, et qu'on décode votre conversation, et qu'on se rende compte que c'était une grosse blague, ça les aura occupés une bonne journée. Et comme ça, peut-être qu'ils se décideront à respecter les libertés et les droits fondamentaux de leurs citoyens et de ceux du reste du monde.
Grand merci pour la série sur l'Algérie. J'ai 44 ans, je suis fils et petit-fils de pieds noirs. Des pieds noirs qui pensaient qu'arabes et algériens pouvaient vivre ensemble. Et si moi j'y étais pas, mon père il y était, enfant, à Sidi Bel Abbès, et il m'a raconté les nuits de terreur qu'il a passées, gamin, à craindre que l'OAS ne plastique sa maison ou ne flingue ses parents, qui étaient de simples militants communistes. Parents d'ailleurs qui ont été menacés de mort en 64, hein, quand ils sont arrivés en métropole, toujours poursuivis par les assassins de l'OS, les pauvres grands-parents, ils ont été obligés de se réfugier à Rouen pour échapper aux tueurs de l'OS. Mais l'objet de mon appel, c'est un article stupéfiant du Monde diplomatique de mai 2008, intitulé « Sans valise ni cercueil, les pieds noirs restés en Algérie ». J'ai appris avec stupéfaction, hein, contrairement à ce que nous enseignent les livres d'histoire, que 200 000 pieds noirs sont restés en Algérie, après les accords d'Évian. Voilà, je répète, 200 000 pieds noirs, soit un cinquième, 20% de cette population, sont restés en Algérie, où ils ont vécu une vie heureuse. On comprend que les assassins aient quitté l'Algérie, mais ceux qui n'avaient rien fait, ils sont restés et ils ont vécu heureux. Et ces gens-là ont complètement disparu des livres d'histoire à cause du travail de sape historique, de révisionnisme de l'OAS, qui a pris la main sur les manuels et une mémoire collective. La valise ou le cercueil, c'était de la mythologie.
Bonjour Daniel, je dois avoir un trou de mémoire, pourrais-tu me la rafraîchir? Y a-t-il bien eu des élections il y a un peu plus d'un an? Rappelle-moi pour qui j'ai voté. L'un de mes élèves en première bac pro a été arrêté dans le train entre Pau et Tarbes le dimanche 9 juin. Il a été placé au centre de rétention d'Anda et puis expulsé vers le Mali dès le samedi qui a suivi. Il n'a commis d'autre faute que d'être né quelque part, comme dit la chanson, d'être majeur depuis quelques mois et de vouloir réussir son bac. À quel ado reprocherait-on de vouloir réussir son bac? Chèque était déjà réinscrit dans notre lycée pour l'an prochain et passait en terminale. Ironie du sort, il était dans ce train pour venir passer au lycée un examen de certification intermédiaire BEP. Autre ironie du sort, la ligne de train Pau-Tarbes dessert Lourdes et c'est la pêche miraculeuse régulièrement pour la police des frontières qui tire ses filets dans le flot des pèlerins étrangers. Rappelle-moi pour qui j'ai voté.
Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Je viens de prendre l'émission en cours là sur le parcours de la recherche de Charlie. J'ai trouvé ça absolument fabuleux, rocambolesque. J'ai qu'une hâte, c'est d'attendre la suite parce que ça a l'air quand même passionnant. Alors je ne sais pas si c'est, on va dire, une histoire à raconter qui n'est pas vraie ou si c'est la vraie histoire, mais toujours est-il que c'est vraiment, voilà, c'est un bon moment de radio. Je vous remercie beaucoup.
Oui, bah, champagne, bien sûr, champagne. Bon, monsieur Mermet, bravo, bravo, bravo. Merci à ton équipe. Merci à tout de nous mettre un peu de voix libre dans tout ça. On se la coule douce avec toi, Daniel, et avec ton équipe. Même sous la pluie, et quand on récupère des arbres fruitiers qui viennent de tomber, rêle. Salut, bisous à tous.
Merci, merci pour tous ces messages, chers AMG. On continue aujourd'hui à la recherche des émissions perdues dans des temps très anciens, des époques inimaginables, où il n'y avait pas de portable. Vous imaginez ça? Non, vous pouvez pas. Pas de blog, pas de souris, pas d'ordinateur.
Mais,
les oreilles étaient déjà inventées. Et donc, il y avait déjà des auditeurs. Et j'étais déjà là, vêtu de peau de bête. J'étais pas seul, on était quelques-uns, des copains, des journalistes, des techniciens. Et on faisait déjà de la radio, avec des micros en bois, des disques taillés dans la pierre et des nagras à pédales. Vous ne me croyez pas? Eh ben, c'est que on sait pas grand-chose, en fait, sur la radio d'avant. On dirait que la radio n'a pas de mémoire et n'a pas d'histoire. La radio, c'est l'ardoise magique. On efface tout et hop, on recommence. La radio avance comme une gomme. C'est-à-dire que le média le plus influent au monde avance comme une gomme. Alors aujourd'hui, ça change, c'est vrai. Avec le numérique, on peut réécouter, on peut mémoriser, on peut archiver. Mais avant, c'était au hasard. C'était le bon vouloir d'une direction, d'un directeur, d'un gars au bout d'un couloir qui décidait que « Oh ben ça, on va l'archiver. Oh ça, bon non, ça pour beaucoup d'intérêt. On s'en fout. » Et c'est ce qui est arrivé à nos émissions. Celle de le début de la basse, si j'y suis, par exemple, est passé à l'as, comme ça. Et puis auparavant, on enregistrait de temps en temps. Alors voilà, avec toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, on est descendu dans les mines de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, pour retrouver les émissions perdues. On en a retrouvé quelques-unes, dont... Alors, cette auditrice a évoqué La Coulée Douce. Alors, on en a retrouvé des numéros de La Coulée Douce, mais ce sera des petites friandises pour se finir cette année, cette saison. Et là, on continue avec le Piano Bar. Si par hasard au Piano Bar, c'était la saison 83-84, il y a quand même 30 ans. Et ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier... Le Piano Bar, c'était chaque jour les invités, mes invités, qui me racontaient leur rencontre avec mon père Charlie, qui était un pianiste, un voyageur, un baroudeur, un drôle d'oiseau, dont j'avais perdu la trace. Et donc chaque jour, les uns et les autres venaient me raconter, et c'est allé, je le disais hier, de Bachung à Souchon, de Dizzy Gillespie à... Il y a des gens moins connus comme Mercer Ellington, par exemple, le fils du Duke Ellington, qui était venu avec sa trompette. Des tas de gens qui venaient chaque jour et qui, Julie Gréco, par exemple, beaucoup d'autres étaient venus dire « Ah oui, moi j'ai connu... » Voilà, hier on avait Claude Pieplu, hier, Georges Moustaki et quelques autres. Et aujourd'hui, on va retrouver Catherine Sauvage, on va retrouver Topor, on va retrouver GB, parmi ceux qui ont rencontré, qui prétendaient à l'époque avoir rencontré Charlie, mon pianiste de père. Alors, vrai ou faux, cette histoire était-elle vraie, était-elle fausse, était-elle chaque jour inventée par les invités ? Je ne dirai jamais la vérité, d'autant plus que Charlie m'a promis, m'a fait promettre de ne jamais révéler son existence. Voilà notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, salut, c'est Georges Philippe. Je viens d'écouter la rediff de l'émission des années 83-84 que j'avais suivie durant toute cette année-là et qui m'avait bouleversé et encore aujourd'hui. Une histoire de Charlie à laquelle j'ai évidemment cru d'un bout à l'autre, qui se termine, là, j'ai un souvenir de la dernière émission qui était tragique avec l'évocation des camps. Voilà. Donc merci encore. Et puis également un grand souvenir radiophonique de l'apparition d'Adèle dans l'émission, Adèle qui jouait Ugly. Voilà. Donc de grands souvenirs radiophoniques. Merci à vous. Salut.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Merci pour ce joli moment avec ton père. Voilà. Ça fait plaisir. Alors tu vois, moi, le mien, ça fait aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il est parti, d'aider l'accordéoniste. Et puis, il est un peu à côté de moi grâce à toi. Alors, salut, et puis, bonne continuation.
France Inter, 14h11, il cherche Daniel Mermet. Il cherche son cher papa, qu'il a si peu connu, et qui se trouve quelque part, on ne sait où, les doigts mariés aux touches d'un piano bar. Quel phénomène, ce Charlie. Et ceux qui l'ont connu l'affirment. Un drôle d'oiseau, Charles Mermet. Gilles Davidas, Daniel Mermet. Si par hasard, au piano bar.
Moi, je crois que Charlie aurait pu être divers personnes. C'est pas sûr que c'est un chien.
Papa,
il aurait pu être.
Papa. Il est où, mon papa?
Il aurait pu être.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gilles Davilas. Et Ramatou Keïta, si par hasard au piano bar, 1983.
Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans les années 60. Et il revenait des États-Unis. Et il jouait dans une boîte rue du Colisée. Je crois qu'elle est fermée maintenant, ça s'appelait Living Room. Et moi, j'étais à cette époque-là, bon, j'arrivais à Paris. Et c'était les premières années où je commençais à chanter mes chansons. J'étais, comme vous le savez, moi, très amateur de jazz. Et Charlie, un jour, enfin, on s'est présenté. Bon, je l'ai trouvé très beau. Il était grand, il avait un très beau sourire. C'était presque, il avait dû, je l'ai connu. Bon, il avait, je sais pas, 45 ans à cette époque-là, peut-être. Et ce qui me fascinait en lui, c'était la longueur de ses doigts. Il avait une étendue, il pouvait, avec ses 10 doigts, couvrir, je ne sais pas, un espace harmonique extraordinaire. De là, justement, la richesse étonnante de ses harmonies.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Claude, de ce père éternellement absent, qu'on voit jamais, cette espèce d'oiseau qui se tire tout le temps
Ben, j'en passe d'autant plus que moi, ça a été la même chose. Moi, j'ai eu un père également... Enfin, pas musicien, mais chanteur d'opéra. Et puis finalement, il m'a largué à mes grands-parents pendant qu'il faisait donc les théâtres. Et moi-même, j'ai été quelque part un enfant plus ou moins abandonné par un artiste, c'est-à-dire qui vivait pour sa musique, pour son art. En ce qui concerne Charlie, on ne pouvait pas lui en vouloir. C'était un tel poète du jazz que c'est un artiste, quoi. Sa passion, sa famille, c'était... C'était le clavier d'un piano.
Vague, c'était de quelqu'un dont on ne se souvient pas des traits.
Ouais, Nougaro, oui, il avait rencontré et Charlie. Je me souviens de Dizzy Gillespie nous expliquant qu'il avait lui aussi rencontré Charlie. Nous avait même dit qu'à cette époque, quand il l'avait rencontré en Louisiane, Charlie se faisait appeler Morani. Morani. Et Dizzy Gillespie nous avait expliqué qu'il était le seul musicien qu'il ait vu jouer de la bouteille de Perrier. Oui, la bouteille de Perrier. Et Dizzy Gillespie nous avait fait dans ce petit restaurant parisien au-dessus de la porte Saint-Denis une démonstration de jeu dans une bouteille de Perrier. Vous voyez Dizzy Gillespie avec ses gros joues qui se gonflaient. Toute la salle était autour de lui. Et il a joué un air en soufflant dans une bouteille comme ça de Perrier en hommage à Charlie. Père. Ça a été quand même une année assez étonnante qu'on avait vécue avec Gilles Davilas et notre assistante Ramatou Keïta. Et au cours de cette année-là, 83-84, GB est venu nous voir pour nous raconter sa rencontre avec Charlie. GB, disparu aujourd'hui, qui brille dans le panthéon de la basse, j'y suis à tout jamais, était un des piliers, un des créateurs, un des grands animateurs de Charlie. Mais Charlie... Le journal, celui d'avant, bien évidemment. Et voilà, il évoque ces moments, ces grands, grands moments. Je voudrais dire qu'évidemment, on revient en arrière, là, on revient 30 ans en arrière, mais c'est pas du tout pour vous dire que c'était mieux avant. On a un principe ici, c'est qu'on ne met pas d'enclume dans les poches des enfants. Si on revient sur ces époques passées, c'est pour que vous les preniez, que vous les pilliez et que vous en fassiez ce que vous voulez.
14h, bah c'est de 7 minutes sur France Inter, l'heure de partir à la chasse. Oui, la chasse, et quelle chasse? La chasse la plus ouverte qui existe à tous ceux qui sont des chasseurs de sons. Car c'est Charlie que l'on traque quelque part à travers le monde, la galaxie, même peut-être bientôt, peut-être que Charlie était l'un des astronautes qui a fait la musique, vous savez, dans la dernière Navette Challenger, on ne sait pas, on saura peut-être. Bref, aujourd'hui, Daniel Mermet est en compagnie de GB, oui, rédacteur et directeur aussi, de ce journal pour le moins satirique qui a pour titre Harakiri. Alors, est-ce que Charlie est allé traîner ses guêtres à Harakiri? Il y a certaines photos qui me font penser qu'il a dû y passer un jour quand même.
Un sandwich, saucisson, cornichon sans beurre.
Medrano, les clowns pétamans, Charlie's Band. C'est ça, ma Madeleine. Medrano était passé sur la place de mon pays, j'allais dire village, parce que Villeneuve-Saint-Georges c'était encore un grand village à l'époque. Et j'habitais un quartier qui s'appelait HBM, on ne disait pas encore HLM, on disait
Habitation à Bon Marché. Et c'était des briques rouges et tout, non ?
Ah oui, et qui existent encore. Et il y avait une très grande place, et les cirques s'installaient sur cette place. Medrano, à chaque fois, pour moi, c'est très précis, c'est le cirque sur la place des HBM et un numéro bizarre qui était des clowns pétomanes. Je pense que j'ai été le dernier à voir des pétomanes. De souvenir en souvenir, je me suis rappelé qu'il y avait également un orchestre qui venait sur la piste et qui s'appelait Charlie's Band. Et il y avait, c'était un orchestre de noir. Et je me souviens avoir, parce qu'on s'était installé très près de la piste, c'est la seule fois où j'étais si près au cirque, on était vraiment près du, tu sais, des barrières de bois. Et je me souviens d'un musicien noir, mais il n'était pas noir, parce que je le voyais de dos, un peu trois quarts d'eau. Ça aussi, c'est une image qui m'est restée. Et le maquillage ne couvrait pas complètement sa peau, qui était café au lait, disons. Tu vois.
Et c'était noirci.
Et c'était noirci. Il s'était noirci parce qu'il n'était pas assez noir, probablement, pour être crédible en tant que noir jouant du jazz, du banjo.
Il jouait du banjo.
Il jouait du banjo comme dans les... comme dans les images qu'on a du Sud, où le bon noir jouait du banjo, comme dans Félix le Chat. With friends around and even pals and no watches, still I'm lonely, homesick and blue. There's no one who can tell me when I'm all alone, longing for my Mississippi home. It's over the hoop, 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 it's over the hoop.
Mais GB, avec sa grande gueule de père peinard et son air pas très catholique. GB, avec son nez fourré dans le contestable, avec son air de 13e à table. GB, a-t-il vraiment connu mon père Charlie Hebdo ?
J'ai rencontré, encore une fois, un musicien qui pouvait être lui. Et puis tu sais comment ça se passe à Rakiri, bon, les séances de rédaction finissent, on se met à boire un coup, on rencontre des gens extravagants, extraordinaires, qui viennent on sait pas où, des amis amènent des amis. C'était Barou qui nous amenait régulièrement des musiciens. Et lui chantait d'ailleurs aussi, et ces musiciens chantaient. Et ce type-là est venu un soir avec lui. Barou jouait beaucoup, il amenait ses guitares. Parce que de temps en temps on a un piano à Rakiri, de temps en temps on n'en a pas. En ce moment on en a un d'ailleurs. Parce que c'est un des rares soirs blues d'Harakiri. Et d'ailleurs, Bernier s'est mis à raconter la saga d'Harakiri en blues. Tu vois, Bernier, il ne connaît pas la musique. Il ne s'est même peut-être jamais rendu compte qu'il y avait un piano derrière lui. Et pourtant, il s'est mis à raconter ses histoires en blues, ses histoires de banque.
Harakiri blues.
Je suis rentré dans telle banque. Il y avait des plantes vertes et il y avait du marbre. Dans cette banque, il y avait du marbre et des plantes vertes. Et on m'a fait descendre. On m'a fait descendre en bas où il n'y avait plus ni marbre ni plantes vertes. Il n'y avait que du béton. Et là, il y avait des types qui m'attendaient dans une banque. Une banque qui a pignon sur rue. Une banque où on m'attendait pour me casser la gueule. Et on me disait, Bernier, il va falloir que tu lâches ton harakiri. C'est fini la rigolade. Tes traites en bois, tes chèques en bois. C'est fini, Bernier. C'est fini l'aventure harakiri. Elle est finie, l'aventure harakiri. Et les plantes vertes, elles étaient en haut. Et le marbre, il était en haut. En bas, c'était le béton.
Harakiri, c'est fini ?
Non, c'est Charlie qui est fini. Je suis désolé. T'as de faire de la peine.
GB, le tendre anard, a-t-il vraiment connu mon père Charlie ? GB avec ses oreilles de petit Mickey et son regard de rat qui rit.
Toi, tu as été au début d'un rat qui rit.
1960. Voilà, c'est facile à se rappeler.
24 ans.
Ouais. Alors, il y a 12 ans pour Cavana et tout le reste, c'est pour moi comme rédacteur en chef. Quel bonheur.
Quel bonheur, vraiment.
Ah oui. Plus je connais la presse, plus je pense qu'il faut continuer à acquérir. Ne serait-ce que pour moi, égoïstement, tu vois, parce que je ne me vois pas travailler ailleurs. Un journal qui est à chaque début de mois 68 pages blanches et qu'il faut remplir et on peut mettre dedans ce qu'on veut, ce qu'on veut. Ça n'existe pas.
C'est-à-dire, raconte-moi.
Ben, on a bu à Rakiri, on a fait l'amour à Rakiri, on s'est promené à poil dans Rakiri, on a fait venir l'immeuble, on a fait venir le quartier, on a fait des balles dans la rue, on a tout fait, quoi.
Est-ce que le ressort n'est pas un peu usé maintenant, franchement ?
Non.
T'es sûr ?
Non, ben, je ne serais pas là, je me serais flingué, je serais pendu quelque part, une poutre si c'était fini. Mais en fait, on se bat pour toutes les libertés. Le droit d'aimer Proust et le droit d'être complètement vulgaire et archi-vulgaire dans un autre sens, parce que ça, c'est la dimension humaine. Tu vois.
Ce serait extraordinaire que ce soit le clown pétoman de ton enfance qui détienne la vérité, non ?
Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, on est les clowns pétomanes, on a dit la vérité, on ne les a pas écoutés.
Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ?
Ça va pas, non ?
Bon, j'insiste pas.
Pas possible ! Il va faire toute la plage !
Waouh, gentille la petite. Et hop là.
À la longue, ça risque de marcher. C'est peut-être une affaire, ce type. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter. Oh, la salope.
Hop là.
Je suis conne de ne pas avoir accepté.
Elle est conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter.
Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ?
Vous êtes malade ?
Bon, j'insiste pas.
Oh non, mais dis donc ! Pour qui il se prend ? Sale mec ! Bougeur ! Monstre !
Waouh !
Remarque, je suis conne de ne pas avoir accepté. Il avait le mérite d'être drôle, sincère, franc, direct, pas emmerdeur. Pas comme ce gros sournois.
Vous êtes en vacances ?
Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. Et maintenant, tirez-vous!
C'était une intellectuelle. Je me serais fait chier!
Elle est conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter. Elle est conne de ne pas avoir accepté. Au fond de la mine, elle pousse des wagonnets.
Oh, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Les vacances, c'est la liberté. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Si j'ai envie, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ?
Vous êtes gentil, mais...
Il est fatigué.
Je ne vois pas pourquoi je me paierais une fille vénale alors qu'en cherchant un peu sur la plage...
Gros salaud ! Bandit ! Sale type !
Vous fâchez pas, c'est logique.
Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté.
Elle peut le dire.
Maintenant, c'est trop tard.
Eh oui.
Les vacances, c'est fait pour ça. Si c'est demandé gentiment.
Ben voyons.
Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté.
C'est fini.
Elle est conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter. Elle est conne de ne pas avoir accepté. Car en vacances, c'est bon la liberté. Elle est conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter.
Tu penses, toi, d'un père qui est toujours barré comme ça, qui est toujours dans la nature, un père qui est éternellement absent ?
C'est pas moi qui lui jetterai la pierre, parce que... Qu'est-ce que j'étais pour mes enfants ? J'étais... J'étais dans une autre pièce. J'étais pas comme lui à courir le monde, mais j'étais dans une autre pièce finalement. Et j'ai eu une vie foncièrement égoïste vis-à-vis de mes enfants. Si on se place au point de vue familial, et si le beau critère moral c'est d'être un père présent et qui demande le cahier pour voir s'il y a des devoirs à faire ou des leçons à apprendre, j'ai les vraiment textes, pas été ce père-là, tu vois. J'aurais pu être à Hong Kong ou à Manhattan ou à San Francisco, c'était la même chose, quoi.
C'est un peu lâche, c'est ça.
Eh ben, oui, mais il faut avoir le courage d'être lâche et égoïste.
À quoi te fait penser de Charlie ?
Il me fait penser à General Morton, c'est ça, il fallait qu'il bouge. Pourtant, et c'était le dieu à Nouvelle-Orléans, mais c'était pas suffisant. Il fallait qu'il aille montrer ailleurs que c'était lui le meilleur, que c'était pas une légende, qu'en effet, cette musique-là savait la faire.
Et Charlie, c'est pas une légende ?
Non, c'est pas une légende, mais et justement, il a besoin de prouver que c'est pas une légende. C'est pour ça que je pense qu'il va à gauche, à droite, il va ici et là pour dire je suis pas une légende, j'existe.
As an encore, we have asked Dr. Ferdinand Jelly Roll Morton to play one of the most famous of all his many compositions, the King Porter Stomp.
Thank you, General Morton. C'est magnifique, hein, cet enregistrement, c'est magnifique. Pianiste, un des pères de la piano, du jazz. Alors voilà, il se succédait ainsi chaque jour au micro du piano bar. En la saison 83-84, je rappelle, je l'ai dit hier, que le directeur du programme s'appelait Jean Garito à l'époque. Et cette heure, évidemment, est un hommage à ce directeur talentueux. Et un jour, on a reçu une femme qui s'appelle Catherine Sauvage.
Hey Joe, je vois un peu le vieillard de ce temps-là.
Cette voix, la voix de ce temps-là, je l'ai entendue au coin du piano et je lui ai aussitôt demandé si par hasard elle n'avait pas connu mon père, mon pianiste de père, Charlie.
Eh bien, je l'avais d'abord rencontré, j'ai rencontré plusieurs fois, comme ça je le connaissais de vue, parce que je l'avais rencontré avec Boris Vian, comme ça, dans Saint-Germain, en se baladant, comme c'était mon quartier, et puis je le voyais souvent parce que... Ben, parce que souvent, il prenait des verres, comme ça, avec toute l'équipe à Vidali, à l'échaudé, comme c'était mon endroit où je bouffais, comme ça, tous les soirs. Alors, je voyais comme ça de loin, mais je ne connaissais pas bien, je ne savais pas bien qui c'était, je savais qu'il s'appelait Charlie, mais c'était tout.
C'était quelle époque, ça ?
Oh, c'était aux environs de 50, à peu près, par là.
Les années 50. C'est vrai, elle a et elle est la voix des années 50. Mais depuis le temps qu'on l'entend, elle finit par être la voix de tout le temps. On rêve de ces rencontres de hasard, n'importe où, dans une gare, au café, sur la route. Un lieu vulgaire, une femme de préférence. Oh, pas comme vous imaginez. Elle aura laissé tomber ses gants, oublié un journal, que sais-je, et tout à coup sa voix comme un cadeau. Ces phrases qui vous font entrer dans un pays singulier, on n'est plus seul. Ce qu'elle dit, tiens, mais elle chante. Et nous voici vraiment appelés dans un univers différent. On se sent comme si l'on avait ouvert la fenêtre par un temps pur. On se sent l'égal des oiseaux.
c'est que tout cela passe par une gorge de jour et d'ombre. Le prisme de la voix se fait lumière et transparence. Ainsi parlait d'elle Louis Aragon. De cette femme, dit-il, rencontrée avec ce nom déjà de souveraine, comme un beau masque de velours, Catherine Sauvage.
À tous les enfants qui sont partis, le sac au dos par un matin brumeux d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vont tripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue.
Ouais, elle a commencé par chanter ça, un inédit de Boris Vian. Et elle m'a dit, s'il entend ça, Charlie va aimer. Charlie. Elle souriait en parlant de lui d'une drôle de façon. Elle m'a dit, je ne peux pas m'empêcher de continuer d'aimer les gens que j'ai aimés. Et moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, voilà un cœur au moins que Charlie, mon père, n'aura pas entièrement ravagé. Mais d'abord, où sais-tu qu'elle l'a rencontré, ce Charlie ?
À l'époque, je fréquentais beaucoup, je voyais souvent Macorlan, parce que j'ai commencé à chanter ses chansons. Et puis un jour où j'étais chez Macorlan me dit, mais il y a un gars qu'il faut absolument que vous rencontriez, Catherine, parce que vous parlez de lui tous les soirs, quand je chantais La fille de Londres, il était question du pub de Charlie. Et il m'a dit, mais ce gars que j'ai connu comme ça,
ah,
Penny Fields...
C'est quoi les pas
c'est... Et chez Charlie, il faisait jour et chaud, Tess jouait des Isabelles sur son vieux piano. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud, Tess jouait des Isabelles sur son vieux piano. Un piano avec des dents de chameau. Et il trouvait rigolo que je le rencontre chez lui. Et il a organisé comme ça une rencontre un dimanche après-midi. Et j'avais emmené Vidali. Et puis Macorlan avait fait venir Charlie à Saint-Cyr-sur-Morin. Et puis Vidal, je ne sais pas comment il s'était débrouillé. Finalement, il a fait venir un piano. Parce que chez Macorlan, il n'y avait pas de piano. Il avait que son vieil accordéon sur lequel il jouait des trucs comme ça.
Est-ce qu'il jouait bien de l'accordéon, Macorlan ?
Ouais. Il jouait comme ça, comme les marins jouent comme ça dans les ports. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Charlie, parce qu'on a passé comme ça toute une soirée. Alors après, bon ben...
Mais comment il vous est... Comment il était physiquement à cette époque-là, mon père ?
Il avait un certain charme. Il avait un côté un peu voyou, comme ça. Puis, évidemment, moi, je le voyais souvent à l'échaudée, où, très sincèrement, il picolait pas mal, hein, avec toute l'équipe à Vidali, là... Ça se terminait souvent sous les tables quand ils étaient
sous
ensemble.
Sous le piano.
Ouais, sous le piano. Même quand il n'y avait pas de piano, ça se terminait sous les tables. mais...
Mais quel genre de type il était Quel genre de type il était? Voyou, vous dites?
Enfin, voyou, non, quand je dis voyou... Le côté un peu Belmondo, le côté comme ça... oui, un petit côté comme ça, un peu Belmondo, le côté un peu... Enfin, je sais pas s'il était bélier, mais il aurait pu être bélier, comme signe du zodiaque. Côté un peu baroudeur, quoi, comme ça, un peu qui roulait sa bosse un peu partout, qui racontait toujours des histoires d'endroits absolument invraisemblables, car il avait navigué dans tous les coins du monde. Alors il racontait toujours des histoires, et puis il avait l'air de, je sais pas, d'avoir connu beaucoup de filles, enfin il plaisait beaucoup aux filles, alors il y avait toujours des histoires tout à fait extravagantes où on retrouvait les plus grands noms du jazz, des tas de souris extraordinaires, comme ça, alors, ça faisait toujours un peu rêver, moi j'étais toute jeune à l'époque. Alors,
oui justement, il plaisait aux filles, il vous a plu à vous?
Ah bah il m'a surtout plu quand je l'ai entendu au piano. Quand je l'ai entendu au piano, là, à ce moment-là, c'était Michel Legrand qui m'accompagnait, mais j'aurais bien fait des infidélités pour que Charlie m'accompagne.
Vous accompagne au piano ou...
Ben, au piano, et puis peut-être aussi un peu ailleurs, quoi, autant joindre l'utile à l'agréable.
Ouais, mais ça aurait pu aller jusque-là.
Ah, oui, peut-être bien. Seulement, c'était un oiseau de passage, hein, Charlie. Alors, on le voyait un jour, nous filait un rendez-vous, il n'y venait pas... puis c'était quand même l'époque où on était tous un peu comme ça. On n'avait pas tellement d'heures, ni pour se coucher, ni pour manger. On prenait les choses un peu comme elles venaient. Alors, c'était pas très, très sérieux, ni les uns, ni les autres.
Vous n'aviez pas tellement conscience d'incarner la chanson française?
Non, on n'avait pas conscience d'incarner quoi que ce soit, ni les uns, ni les autres. Donc, on se prenait pas très au sérieux. Et c'est pour ça qu'il m'a pas brisé le cœur, quand même, Charlie, n'exagérons rien. Mais enfin, pour une fin de semaine, mon Dieu, j'aurais pas dit non.
Comme une simplette, la fillette, enivrée par les grands mots, elle y a cru un peu trop, si bien que quand tu es parti, elle n'a vraiment rien compris, sinon que c'était fini.
Toi qui disais que tu l'aimes,
dans
tu
les rues,
tu l'aimes,
sur les pavés mouillés,
qui disait que tu l'aimes,
tu l'aimes. Sans joie,
qui disait que tu l'aimes,
une fille,
tu l'aimes,
va pleurant sous la pluie,
qui disait,
et pense encore,
tu l'aimes,
à toi,
qui disait que tu l'aimes,
chaque fois que je rentre,
ça te dit pas grand chose sur ton papa, évidemment.
Vous avez entendu cette voix? C'est un irrécupérable. Pas encore récupéré.
On attend depuis des années le jour où ils vont récupérer Topor, c'est Topor.
Ça marche toujours pas. Il est irrécupérable, c'est génial, non?
Vous allez peut-être comprendre pourquoi, d'ici à la fin de cette heure de là-bas, si j'y suis, mais cette fin aussi de... Du piano bar. Si par hasard au piano bar, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'était une émission entre 83 et 84, la saison 83-84, où chaque jour j'étais à la recherche de mon musicien de papa, et où chaque jour, eh bien, les uns et les autres me parlaient de lui. Et ce jour-là, c'était l'irrécupérable Topor.
Roland, Topor, quelqu'un à ne pas engager comme babysitter. Roland, Topor, un voisin à qui il vaut mieux ne pas demander d'arroser les plantes pendant les vacances. Roland, Topor, le rieur dangereux. Roland, Topor, le pitre tragique.
Roland Topor, as-tu connu mon père, Charlie?
B.
Je l'ai rencontré, c'est un café qui se trouve rue des Fossés Saint-Jacques, derrière le Panthéon, et qui s'appelle la Nouvelle Mairie, et où il y a du vin assez bon. Et j'y étais passé comme ça au café, il y avait un type au bar, et au moment de payer, il était à côté de moi, il a dit « je n'ai jamais un homme seul payé son verre ». Mais en fait, il était un peu éméché, je crois. Enfin, très sympathique.
Il voulait te séduire ? Non.
Non, il parlait avec le patron. Donc, moi, je lui ai repayé un verre. Et très vite, on est arrivé à parler de Slim Gaillard. Et ce qui m'avait épaté, c'est parce qu'à un moment, il a dit « carne di maiale ». Il y avait un type qui avait commandé un sandwich ou un truc comme ça. On a proposé charcuterie. Il a dit « oui, oui, carne di maiale ». Or, il y a un morceau de Slim Gaillard qui s'appelle « carne di maiale ».
Carne di maiale. Carne di maiale. Io volete vara?
Ma volete vara?
A mangiare?
A giacomuni?
Carni di maialo?
A prima d'arano?
Freddo?
A freddo?
A pizza?
A pizza saluni?
Faccia brutta?
A faccia brutta saluni?
Ravioli?
Ravioli?
Spaghetti? Meatballs and cheese?
Meatballs and booty?
Il était assez modeste, il n'était pas du tout ramenable. Bref, on a vu quelques verres en parlant de Slim Gaillard et de Slam Stewart. Dizzy Gillespie aussi, parce que je sais que Dizzy Gillespie était un peu à couteau tiré avec Slim Gaillard, parce que je ne sais pas lequel a poursuivi l'autre avec un couteau. Toujours est-il que lui, Charlie, il avait l'air de s'entendre assez bien avec Dizzy Gillespie. Et moi, je croyais qu'il était mort, Slim Gaillard. Il m'a dit non, pas du tout. Il était sur la côte ouest. Nous, on était un peu... On n'arrivait plus tellement à parler. Et on a été manger. Attends, où est-ce qu'on est allé? Voilà. J'ai un petit trou, je ne sais plus où on était mangé, mais je sais qu'on s'est retrouvé le soir au Birdland après, très tard. Et là, on a prolongé en écoutant des trucs de Slim Gaillard. On a commencé à parler de jazz et il a prétendu, alors ça, je ne sais pas, mais moi, ça, à l'époque, j'avais ouvert les yeux comme ça, que c'était lui qui aurait était au départ de Chicken, le fameux truc de Slim Gaillard où il imite le rythme des poules.
Jello, chicken rhythm. Jello, chicken rhythm. Jello, chicken rhythm.
Comment il était physiquement? On va voir si c'est mon papa.
Moi, je suis pas très observateur et les gens que je connais, je les reconnais pas. Alors, je suis absolument incapable de te donner des détails sur comment il était habillé, sur à quoi il ressemblait. Même ses yeux, je les vois plus. C'est le brouillard le plus total. Il faut dire qu'à ma décharge, qu'on était quand même un peu...
Off they go, chug, chug.
Mais c'est quand même un peu fâcheux de ne pas être observateur quand on fait le métier que tu fais.
Mais ça me gêne pas, parce que comme la réalité me donne de l'asthme, moins j'en vois, mieux c'est. Le brouillard, la brume, la nuit, la neige... Quand il pleut, tout ça, ça rend la... Même les astronautes, quand ils étaient sur la Lune, ils étaient d'accord pour dire que la Terre était très belle vue de loin.
Donc tu te vois pas dans un paysage avec ton chevalet en train de peindre sur le motif?
Oh, j'ai dû me voir, mais je me suis oublié. Je sais vraiment pas à quoi ça ressemble.
Dis-moi là, tu allumes ton cigare là. Est-ce qu'il fumait le cigare, mon père?
Ah, oui, le type, en tout cas, ce Charlie dont je te parle, il fumait des cigares, mais il fumait pas de Havane. Or, moi, j'étais très content parce que j'en avais plus que deux. Et lui, je sais pas d'où ça venait, ces cigares de Floride ou autre chose.
Dis-moi la vérité, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de... de me faire croire que t'as rencontré mon père histoire de parler dans la radio.
Bah non, parce que moi j'étais pas tellement chaud en plus, parce que c'est une position délicate. Sans compter que une des choses dont je me souviens, c'est qu'il a dit que la famille c'était de la merde, qu'il fallait aller, tu vois, que les gosses sont des microbes. Au départ ils sont petits, ils grandissent et quand ils ont atteint la taille, tu meurs. En fait, quand les gens ont un gosse, c'est un microbe qui les tue.
C'est pas très flatteur pour moi, ça.
Ben, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Parce que toi, t'étais pas d'accord que...
Non, pas du tout, moi j'étais complètement d'accord. les petits morveux, alors là.
La France t'écoute, hein, t'as pas...
Absolument. Il y a moins d'enfants, il y aurait moins de jeunes. ça ferait plus de vieux. saignerait moins aux quatre veines. Hein.
Je n'ai pas la grippe ni l'anémie, la méningite, la pneumonie. Je n'ai pas le typhus ni le choléra, ni des petits trucs dans l'estomac. Je suis atteint d'une bonne maladie, moi, vous savez. J'ai la rigot. J'ai la rigolomanie.
Ça me rend triste ce que Charlie t'a dit sur la famille. Et puis ce qui me rend triste aussi, c'est que tu sois d'accord avec lui.
Mais il faut dire qu'à partir d'une certaine heure, c'est très dur de raconter 6 heures de, ou 7 heures de bistrot.
Si bien que si un jour j'ai la chance extraordinaire de revoir mon père Charlie, si je lui dis « Est-ce que t'as rencontré Topor ?», il me dira « Qui c'est celui-là »
Oui, sûrement. Sûrement. Mais peut-être que si tu lui parles du café de la Nouvelle Mairie, ou bien de... Il avait une carte des Vosges. Tiens. Il avait une carte des Vosges. Et il la sortait à tout bout de champ en disant « Un jour, j'irai dans les Vosges. » Peut-être... Je ne sais pas si ça peut être utile.
Très utile, ça, les Vosges.
il parlait des Vosges en disant qu'il y avait la dernière aventure, c'était dans les Vosges. On avait évoqué un livre de Mac Orland, qui est le petit manuel de l'aventurier actif et passif, je ne sais pas si tu connais. Et parce que Mac Orland dit donc que les aventuriers actifs, ils ont besoin d'un aventurier passif pour que ça soit une aventure, sinon ils ne se rendent pas compte que c'est une aventure. Ceux qui sont vraiment l'aventurier passif étant celui qui reste à la maison et qui vit de l'aventure des autres. Et il disait comme c'est vrai, mais pas dans les Vosges.
Le scaphandrier.
Est-ce que Charlie t'a parlé des femmes?
La seule phrase ancienne, il a sorti son trousseau de clés et il a dit, voilà, avec un trousseau de clés comme ça, on peut avoir toutes les femmes du monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Travailler dans un hôtel, peut-être?
Non, c'était ses clés. Et il en avait 3. C'était pas...
Comment t'expliques le phénomène? Avec 3 clés, t'as toutes les femmes du monde.
Oui, j'ai pas très bien compris.
This is my song, and it's so beautiful, so beautiful. I love you, I flip.
Si tu te places un instant de mon point de vue, qui suis le fils de Charlie, qui suis l'enfant,
sympa, je te dis, hein.
Oui. Mais il m'a manqué.
Hein. Il avait l'air fauché, hein.
Oui, mais même fauché, c'est, ça n'a rien à voir.
Non, parce qu'un père riche manque plus qu'un père fauché, je trouve. Il faut quand même pas exagérer. Bah, le plus dur, c'est pour lui.
She was so gorgeous.
Beatles, Goodly Rooney Moore. This is my song, and I just love it. Oh, so beautiful. And she said, I love you. Oh, Rooney.
Comment était ton papa, toi? Quelle relation vous aviez et que vous avez?
Si on a des rapports. Non, on a des relations tout à fait correctes.
Mais il t'a jamais manqué.
Ah, si, mais quand j'étais petit.
Dans ta maison, là, il y a des toiles de ton papa. Moi ce que je suis déçu, tu vois, c'est que mon papa m'a pas du tout appris à jouer du piano, tandis que ton papa a l'air de t'avoir donné le goût de l'art plastique. Une bonne occasion de parler de toi, Topor.
Tu sais que je me suis reconverti, je fais plus de... je ne dessine plus, je ne peins plus. Je suis dans l'immobilier maintenant.
Oui, j'ai vu ça, j'ai vu une agence Topor en bas quand je suis arrivé. Voilà. Et ça marche?
Bon, disons que ça marche pas très bien, mais ça marche mieux que quand ça marche mal en peinture. Au bout d'un moment, quand on a travaillé, moi ça fait maintenant 20 ans, c'est plus du tout drôle de dessiner, de peindre. Alors que l'immobilier, je trouve que ça a beaucoup de charme.
Est-ce que c'est pas quelque part un renoncement par rapport à tes premières amours?
Oui, mais un peu comme Rimbaud, quoi. Comme disait la Calas, et elle disait, moi, j'aurais été femme de ménage, je sens que je l'aurais fait d'une façon différente parce que j'aime tout ce que je fais. Et que quand on aime ce qu'on fait, on le transcende. Et moi, comme femme de ménage, j'aurais pas été une femme de ménage comme les autres. Et c'est pour ça que ça m'agace quand à la maison, il y a de la poussière, parce que je me dis, ma femme de ménage, elle fait mal son travail. Authentique.
Alors en quoi est-ce que tu n'es pas un agent immobilier comme les autres? Qu'est-ce que tu apportes de plus?
Non, mais je préfère pas en parler, tu vois, parce que c'est quand même mon intimité. La peinture, on peut en parler, si tu veux. Je prends la page blanche. Tu vois, on parle beaucoup de vertige, mais moi, je suis habitué. Et puis, je m'attache avant de peindre, parce que c'est vrai qu'il y a un vertige, sinon. Et puis, j'empoigne mon pinceau, je trempe dans l'encre, dans la peinture, tu vois. Et puis, je pars, slack, slack, slack. Et puis, je travaille, et puis, quand c'est fini, je signe.
Quand c'est sec ou...
Non, avant.
Avant, dans la pâte, quoi.
Vous sèche en même temps. Parce que je trouve qu'il y a trop de peintres qui signent après et finalement, ça ne fait pas la même valeur. Moi, je suis perfectionniste. J'aime que la signature et la toile aient la même consistance, tu vois, que ce soit sec en même temps.
Vous êtes un perfectionniste. T'es un perfectionniste, quelque part.
Oui, mais il ne faut pas exagérer non plus parce que pour le cadre, je laisse faire. Je connais des peintres qui passent leur vie à s'occuper d'encadrement, et ça, je trouve que c'est pas le même métier. Je préfère faire de l'immobilier.
Si pour finir, avant que la bande n'arrive là à terme, ouais. Je te demandais, juste avant, il faut que tu trouves la réponse avant que ce soit arrivé au bout, d'accord?
Ouais.
De faire...
On va essayer, hein.
Ouais, tu te brouilles, hein, parce que moi, je vais être vachement long. De faire le portrait musical de Charlie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite sur le plan musical, puisque tu es un bon amateur de musique avec ton air idiot,
oui.
de Charlie.
Je vois pas ce qu'il y a de drôle, moi. Bye bye Daniel Mermet, à demain, même heure, même endroit, tu te rappelleras, hein? Dis.
Ouais,
tu te rappelleras.
Slim and Slam, c'est de là. Merci à Topor, à Catherine Sauvage, à GB, à Claude Nougaro, c'était les invités de cette année-là, de cette saison, parmi d'autres, du piano bar, si par hasard au piano bar
Débrouillez-vous pour trouver les bouquins de GB. Il a écrit des tas de textes formidables. Et puis Topor, vous devez absolument connaître par cœur les mémoires d'un vieux con, au moins de Topor. Catherine Sauvage, vous l'écoutez, Nougaro et tout ça, c'est des gens magnifiques. Merci à tous, on continue demain. Merci aussi à Hervé Evano de l'INA qui nous a aidés. Salut à Ramatou Keïta qui était à l'époque notre assistante. Et puis salut à Gilles Davidas qui était le réalisateur de cette série d'émissions. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique programme émission là-bas si j'y suis, ou sur le site la-bas.org où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur la page Facebook de là-bas si j'y suis, où vous pouvez nous laisser des messages si vous le souhaitez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Bruno Poncelet, Lucie Acoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, assistée de Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 166 millions d'euros. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Radio France, partenaire de l'inauguration du MUCEM à Marseille. Avec ses 40 000 mètres carrés, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée vous accueille au rythme de ses expositions, de ses séances de cinéma et spectacles variés. Venez à la rencontre des rives de la Méditerranée. Plus d'informations sur radiofrance.fr.
Demain à 15h, on se retrouve pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse avec Laetitia Gaillet pour les infos. Il est 16h sur Inter. Salut!
Au procès du meurtrier présumé d'Agnès aux assises de Haute-Loire, le huis clos a été partiellement levé aujourd'hui. En fait, cette décision ne vaut que pour les débats de cet après-midi. Elle a été prise à la demande de l'avocat d'une précédente victime de Mathieu. Mathieu qui est aussi jugé pour le viol d'une jeune femme en 2010. Le professeur britannique qui s'était enfui en France avec une de ses élèves de 15 ans en septembre dernier a été reconnu aujourd'hui coupable d'enlèvement d'enfants par un tribunal anglais. On attend maintenant sa condamnation. Il a passé 9 mois déjà en prison. Il risque 7 ans de prison. 14 jours exactement après avoir prêté serment, Rami Abdallah jette l'éponge. Le nouveau Premier ministre palestinien a présenté aujourd'hui sa démission. On ne sait pas pour l'instant si elle a été acceptée par le président palestinien Mahmoud Abbas. Cela fait suite en fait à des divergences avec ses deux vice-premiers ministres. Un employé de l'usine PSA de Poissy dans les Yvelines qui était depuis le début de l'après-midi sur le toit de l'un des bâtiments de l'usine et qui menaçait de se suicider est finalement redescendu dans le milieu de l'après-midi grâce au concours des policiers et des pompiers présents sur place. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné aujourd'hui à 5000 euros d'amende à un patron d'une entreprise de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Son forfait, avoir refusé l'embauche de maghrébins par précaution, disait-il, pour éviter les tensions. Le patron d'origine juive avait publié une annonce à Pôle emploi qui allait dans ce sens. Plus de 39 millions de dollars pour Airbus, 39 milliards de dollars pardon pour Airbus, 38 milliards pour Boeing, commande ferme. Les deux avionneurs ont fait aujourd'hui les comptes au salon du Bourget. Du côté des compagnies aériennes, Bruxelles de son côté a donné aujourd'hui son feu vert au rachat de Virgin Atlantic par Delta Airlines. La compagnie américaine prendrait ainsi 49% de la britannique. Selon la Commission européenne, la nouvelle entité issue de cette concentration continuera à faire face à de concurrents puissants que sont British Airways et American Airlines. Sur les rails, cette fois, Bruxelles a donné aujourd'hui 2 mois à Londres et Paris pour réduire les tarifs appliqués aux passagers et aux transporteurs de fret qui empruntent le tunnel sous la Manche. La Commission européenne les trouve excessifs. Ça freine, dit-elle, la croissance dans le secteur ferroviaire. Avec ces prix, on utilise seulement 43% des capacités du tunnel. Eurotunnel justifie ces prix par la nécessité de couvrir les charges de construction. Mais s'il n'y a pas de changement, cela pourrait aboutir sur une action en justice. Conséquence directe, le titre Eurotunnel a perdu 7% à la bourse cet après-midi. On peut être le meilleur joueur de foot au monde et être mis en examen. Lionel Messi est poursuivi aujourd'hui par l'Espagne pour fraude fiscale. Son père a également été mis en examen. Le montant de la fraude s'élèverait à plus de 4 millions d'euros et des faits qu'ils nient tous les deux. Enfin, les épreuves de bac continuent encore aujourd'hui et l'examen a beau être très contrôlé, ça n'empêche pas les couacs. Ainsi, ce matin, un sujet de maths a été distribué en lieu et place d'un sujet d'économie dans un lycée de Besançon. L'épreuve de maths étant prévue pour demain, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de le remplacer au niveau national par celui de secours. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Demain, Radio France, faites la musique à l'Olympia.
Pendant plus de 24 heures, retrouvez les émissions de France Inter en direct et en public de la mythique salle parisienne.
À partir de 7h, matinale spéciale avec Kali, Zazie et Patrice en live.
À 9h dans Comme on nous parle, la grande Sophie et Stromae seront les invités de Pascal Clark.
À 10h dans Service public, Guillaume Erner recevra les responsables des plus grands festivals musicaux.
À partir de 11h, on va tous y passer avec Mathieu Bogart, Alain Chamfort et Soulmane en live.
Et à partir de 17h,
toute une série de sessions musicales sur la grande scène de l'Olympia.
Avec le grand retour de Franz Ferdinand,
Rover,
Olivia Ruiz pour la première fois avec un big band,
Alex Baupin,
une carte blanche à Christophe accompagné par Édouard Baird, Vincent Lindon et Rachida Brakni,
Pedro Winter and Friends,
Féloche et ses 50 mandolines,
la grande Sophie avec les musiciens de l'orchestre de Radio France
et bien d'autres.
Une soirée exceptionnelle, retransmise sur France Inter jusqu'à 3h du matin.
Radio France vous invite à la 32e édition de la Fête de la Musique en direct et en public de l'Olympia.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Toutes les infos, les programmes sur radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand honneur et le très grand plaisir de recevoir Jean-Pierre Lepavec qui est directeur de la musique à Radio France. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes le vrai Père Noël de la musique parce que vous vous occupez d'un tas de choses, des orchestres, de la maîtrise du chœur et du festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon aussi. Alors nous avons des annonces officielles. Moi j'ai reçu un mot qui me demande d'annoncer l'Orchestre Symphonique des Landes. Attention, c'est au ministère des Relations avec le Parlement, donc ça dépend du Premier ministre et ça va se passer demain. Et gratuitement, à partir de 18h à l'hôtel de Clermont, c'est 3 rue Barbet de Jouy, dans le 7e. C'est gratos, à 18h, au ministère des Relations avec le Parlement. Et vous-même, vous avez aussi la pré-maîtrise de Radio France.
Oui, qui va se produire à l'hôtel Matignon, donc chez le Premier ministre, et qui sera à 17h45, donc dans la cour. J'espère qu'il fera beau.
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
Donc c'est les jeunes enfants, en particulier de Bondy, vous savez, de cette expérience. Oui. C'est un peu formidable là, qu'on est en train de faire dans une zone assez difficile. Donc les petits-enfants viendront chanter.
Voilà. Et il y a un appétit de musique qui s'est révélé là-bas à Bondy. D'ailleurs, la maîtrise de Radio France à Bondy va fêter évidemment la musique à l'hôtel de ville à 13h30. Oui, il en pleut des annonces bien sûr, mais on va essayer de montrer quelques-uns des points forts de la saison qui va s'ouvrir en septembre. Mais avant cela, bien sûr, il y a déjà le festival de Montpellier, de Radio France, Montpellier, Languedoc-Roussillon, dont vous êtes de fait évidemment le patron, le directeur. Alors on commence le 11 juillet avec la fameuse messe de Leonard Bernstein. C'est une sorte de grand charivari invraisemblable avec tous les styles parce que Bernstein savait tout faire. Donc ce sera l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, le chœur de la radio lettonne, l'Opéra Junior, l'ensemble Aedes, tous dirigés par James Judd et puis de beaux solistes bien sûr. Et en deuxième partie à Montpellier où il fera certainement beau. Chaque fois que je suis allé, il faisait un temps magnifique.
Oui, on a de la chance là-bas, il fait très beau. Oui.
C'est un peu décalé, il faut dire, sur la carte. Et ça se passe généralement plus facilement. Donc il va y avoir le deuxième jour à 20h au milieu d'un tas de concerts, il faut dire des jeunes, le Quatuor Girard par exemple, vendredi Yevgeny Zoutbin qui est pianiste, l'Anachronique Jazz Band, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Montpellier c'est très très...
Il y a 120 concerts.
C'est foisonnant, hein, c'est vraiment incroyable. Puis pas mal qui sont soit à très bas prix, soit gratuits. Ça, c'est vraiment une grande fête populaire aussi. Donc on va entendre de la musique de danse, 4 siècles de ballet ballet en France avec l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth. C'est à l'Opéra Berlioz, le Quorum, à 20h. D'ailleurs, tout comme le tout premier concert de Bernstein. Alors là, dites-moi, ça n'est pas un orchestre de la maison. Alors, il faut dire qu'il est venu diriger l'orchestre philharmonique, François-Xavier Roth. Il est ami de la maison.
Hein. Oui, et puis il a une démarche qui est assez formidable, c'est-à-dire en particulier dans ce concert, c'est d'essayer de retrouver une certaine véracité. Donc il y a aussi par exemple le Sacre du Printemps, puisque oui, c'est les 100 ans, avec des instruments d'époque. Donc je ne sais pas de quelle époque.
Oui, parce qu'on part de Lully, on va à Rameau, oui. Delibes,
Massenet. À chaque fois, il y a un instrumentarium qui correspond au son de l'époque. Mais il y a 100 ans, ce n'est pas si loin en même temps pour le Sacre du Printemps.
Ça
mais ça peut donner peut-être une couleur un peu différente.
Oui, ça va jouer dans ce concert, à mon avis, surtout sur les instruments avant. Et puis les percussions, on peut changer.
Ben, avec perse ou pas perse.
Oui, exactement. Tout de suite, un extrait des Saisons d'Alexandre Glazounov. Ça fait partie d'un des récents disques des Siècles avec François-Xavier Roth. Pas de deux et Bacchanal.